Donc c'est Pierre Tartakovsky, journaliste à Option, qui va animer cette table ronde.
Allez, on finit de s'installer à la tribune. Eh bien, bonjour. On va continuer après les témoignages de très grande qualité et qui donnent beaucoup de texture à l'enquête qu'on nous a présentée au préalable. On va, si vous le voulez bien, revenir sur les termes de l'enquête en essayant de les approfondir, de les mettre à la question, si j'ose dire. Nous avons pour cela à la tribune Daniel Linhart, à l'extrême gauche. Oh, c'est malin. Oh, c'est malin. Je vois qu'il y en a qui suivent dans la salle. Christian Baudelot à ma gauche et Bernard Friot à ma droite, mais ça n'a absolument aucune signification particulière le concernant. En tout cas, je peux vous l'assurer, il le confirmera à sa manière. Je suis moi-même Pierre Tartakovsky, journaliste, rédacteur en chef d'Option, qui se trouve être le journal de l'organisation des cadres de la CGT. Et on m'a demandé d'animer, ce qui est toujours une demande qui, personnellement, me sidère un peu, parce que vous avez tous des têtes très, très animées. Je pense que même sans moi, vous seriez très, très animés. Alors, l'idée, nous avons une quarantaine de minutes pour ça, et là, il y a un challenge. L'idée, c'est de revenir sur l'enquête, de la mettre un peu en perspective. Nous avons donc des spécialistes du travail. Il nous manque Emmanuelle Picard, qui est l'historienne. L'historienne est actuellement, me dit-on, bloquée dans un TGV. Donc c'est un peu l'inconnu du débat. Si elle arrive à temps, on lui donnera la parole. Et si elle n'arrive pas à temps, ben, je ne sais pas. Si elle a préparé quelque chose, peut-être on pourra le mettre sur le site. Enfin, je pense qu'on fera tout pour que, en tout cas, sa réflexion ne reste pas bloquée sur les rails. Je ne sais pas comment on peut organiser les choses. Christian Baudelot, dans un premier temps, l'idée générale, c'est que vous avez 10, 12 minutes chacun. Mais vous n'êtes pas forcé de parler 12 minutes d'un coup. Peut-être vous pouvez interréagir les uns les autres, étant entendu qu'il ne faut pas tous parler en même temps, hein, et puis que quand même ça n'aille pas au-delà des 40 minutes, parce que on a un programme après qui nous pousse. Voilà, Christian.
D'accord. Bon, ben d'abord moi je me réjouis beaucoup du fait que cette enquête existe, qu'elle soit le fait d'une intersyndicale. Ils ont pris le taureau par les cornes, c'est-à-dire que l'avantage énorme de cette enquête, c'est qu'elle objective, bon, elle rend public le phénomène étudié et elle le mesure. Bon, alors sur l'enquête, on peut sûrement discuter à l'infini sur sa précision, etc., sa représentativité, etc. Je pense que c'est absolument pas le problème, c'est-à-dire que les auteurs de l'enquête sont eux-mêmes les plus conscients de ses limites, ils ont dit que c'était une enquête exploratoire et que, je veux dire, enfin, il faut en rester là et essayer de comprendre ce qu'elle nous apprend et en quoi, je veux dire, elle est extraordinairement intéressante. Alors, elle porte sur 4400 personnes. Bon, comme c'est par l'intermédiaire d'Internet, il est certain que les 4400 personnes, représentent sûrement un biais, mais peut-être un biais particulièrement intéressant parce que c'est les plus motivés, c'est les plus intéressés, c'est les plus prompts à répondre, c'est ceux qui ont peut-être le plus grand nombre de choses à dire. Et dans ce cas-là, ils les ont dites. Et le tableau, qui ressort, enfin qui a été vraiment très bien exposé au cours de la première partie, il est quand même impressionnant, quoi. C'est-à-dire qu'on a des formes de précarité dures, le style 10 mois de rémunération au lieu d'emploi que 12, bon, le travail gratuit. C'est une précarité stable. C'est-à-dire que c'est une précarité durable et que c'est pas une question de petits jeunes. Ça, ils l'ont, je trouve, extrêmement bien montré. Donc, on a un phénomène dur, là, dont des enquêtes ultérieures pourront sans doute affiner, progressivement améliorer l'image, quoi, c'est-à-dire faire la part, enfin la géographie complète de la population, mais je veux dire d'ores et déjà les faits qui sont donnés là, enfin bon, les étrangers, tout un ensemble de choses, et on retrouve encore une fois un certain nombre de constantes qu'on retrouve vraiment partout, c'est les femmes. Et c'est les SHS. Bon. Alors, SHS, ennemi numéro un aujourd'hui du pouvoir en place, il faut relier ce phénomène-là avec ce qui se passe dans l'enseignement des sciences économiques et sociales dans les lycées, où la dernière réforme interdit d'analyser, de parler du chômage aux enfants, enfin bon, aux lycéens, il paraît que ça n'existe pas, et que on est dans, enfin, je veux dire, ce qui est, moi, je trouve très grave dans le tableau qui est vraiment impressionnant, qui ressort de cette enquête, c'est que malheureusement, on peut le relier à des tendances stables de notre société qui s'approfondissent avec le gouvernement actuel, et on en retrouve aussi les traces dans des pays de développement similaire, par exemple dans les universités américaines ou au Japon, où aussi on a une double population. Et donc là, je pense que c'est extrêmement grave, et en particulier en ce qui concerne les universités. Ça a été dit dans les témoignages, mais ça veut dire que pratiquement tout le premier cycle est déserté par les enseignants titulaires qui emploient, on peut appeler ce prolétariat nouveau pour faire tout le boulot, et comme ça a été très bien dit, pour faire tourner la machine. C'est-à-dire que la machine universitaire tourne aujourd'hui comme ça. Et on ne peut pas ne pas non plus mettre en relation cette prolétarisation cette précarisation et cette prolétarisation, je veux dire, de l'enseignement du premier cycle assuré par des vacataires avec ce qui se passe en haut. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de créer des chaires d'excellence où le fin du fin, c'est de dire aux gens, vous êtes excellent professeur, donc vous n'enseignerez plus. Et donc, on va vous payer pour ne pas enseigner. Bon. Et ça, je pense que ce mouvement-là, il est tragique pour la vie à terme, si vous voulez, de nos universités et de tous les de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que on a eu des époques quand même où il y avait des liens et où on savait que les jeunes enseignants deviendraient des vieux enseignants qui progresseraient dans la carrière, etc. Là, aujourd'hui, on a des populations complètement différentes, des corps complètement étanches, des univers complètement différents. Et en même temps, on demande aux précaires d'être aussi excellents, hein, c'est-à-dire de faire des colloques, d'avoir des contributions et des publications dans des revues top niveau, d'aller à l'étranger, etc., sans leur fournir absolument aucunement les moyens. Et ça, alors, est-ce que c'est quelque chose qui est durable, et qu'est-ce que ça va faire, je veux dire, en fait, à nos universités? C'est-à-dire que la bipolarisation, enfin la polarisation entre un corps d'élite de plus en plus délivré des tâches d'enseignement, de plus en plus assuré de primes, d'IUF, et je veux dire de décharges et de dispenses, etc., et que le sale boulot, ce qui devient un sale boulot, parce que le fait d'enseigner dans le premier cycle n'est pas du tout un sale boulot, mais simplement ça le devient. C'est comme ça que c'est fait. Donc là, je pense que c'est une tendance extrêmement grave et extrêmement dommageable. Alors, mon temps de parole, enfin, en tous les cas, le premier, j'interviendrai après, s'achève. Mais moi, ce que je tiens, c'est à féliciter vraiment chaleureusement tous les auteurs de cette enquête pour cette enquête qui est nouvelle, qui était très difficile à faire parce que bon, c'est une population précaire par définition, c'est très difficile à cerner, très difficile à répondre, etc. Et je trouve que les résultats qui donnent avec toutes les nouvelles structures d'emploi qui se dégage. C'est-à-dire, on est maintenant dans un domaine de polyemploi, comme il y a au Mexique, comme il y a en Colombie. C'est-à-dire qu'un seul emploi ne suffit pas. Il y a une dégradation complète de l'univers de l'emploi chez des gens qui ont bac plus 5 et qui sont docteurs. Bon, ça, je pense que c'est une tendance qui est extrêmement, bon, très moderne, enfin, très tendance, voilà. Mais je veux dire, elle est absolument gravissime. Et je pense que autour de cette enquête, à partir de cette enquête, à partir de cette intersyndicale, je veux dire, on a les premiers éléments, je veux dire, d'un mouvement. Et je veux dire, c'est nouveau puisque moi j'ai assisté dans les années 80, j'étais déjà titulaire, mais mes étudiants n'étaient pas au fameux mouvement des hors-statuts. Bon, et là, je veux dire, il y avait quand même une rupture syndicale, c'est-à-dire que les syndicats universitaires dominants étaient des syndicats titulaires, et que les hors-statuts étaient assez peu défendus, enfin, ils étaient défendus par le SNCS, mais ils étaient très peu défendus par les autres syndicats enseignants. Là, on a une donnée nouvelle, et je pense qu'elle est riche d'espoir et, en tous les cas, d'action. Voilà.
Merci. Daniel Linhart, Christian vient d'articuler un peu la dégradation des personnels et puis une dégradation plus générale qui est celle de l'université, de l'outil du travail même, du processus de travail même. Alors d'abord, est-ce que ce point de vue est partagé d'une part? D'autre part, l'enquête elle-même assume une fonction de dévoilement de la réalité, puis de dévoilement d'un nouveau jeu des acteurs syndicaux. Quelle est la part du neuf là-dedans et quelle est la part d'un espèce de bis repetita? Parce que c'est pas tout à fait la première fois quand même que le mouvement syndical affronte la question de la précarité de l'emploi et de la précarité des statuts.
Effectivement, on a le sentiment de choses très familières, très connues, et on a, enfin, j'ai le sentiment de revivre, ça a été dit par une des intervenantes aussi, de revivre des moments, des mobilisations, enfin j'espère qu'il y en aura bien entendu, qu'on a déjà connues, et tu faisais référence tout à l'heure, Christian. Donc moi je voudrais m'associer vraiment, c'est pas des compliments, mais à l'admiration que suscite une telle démarche, parce que d'abord elle a été plus ou moins initiée par les stables, si j'ai bien compris, par des chercheurs titulaires, non? Les deux, mais enfin bon, ils étaient présents, ils ont répondu à l'appel, ils sont mobilisés, ils ont pris du temps, et je trouve que c'est véritablement quelque chose de très réconfortant et qui augure bien pour l'avenir. Donc c'est extrêmement important, même si c'est bis repetita, de mettre en évidence, de rendre visible la part grandissante de la précarité dans notre milieu. Et je crois que, indirectement d'une certaine façon, mais de façon très très solide quand même, on voit bien que c'est une attaque en règle du milieu. Je pense que c'est tout le milieu, et c'est pour ça que je suis très attentive au fait que c'est aussi bien des précaires que des titulaires qui sont associés à la démarche. Je crois que c'est une attaque en règle du milieu, c'est-à-dire c'est aussi bien une attaque des titulaires que évidemment des personnes qui vivent la précarité, qui sont doublement pénalisées, puisque objectivement elles sont précaires. Mais je crois que c'est une attaque en règle contre le milieu, parce que en fait. C'est la capacité collective de travail, ce sont les réseaux collectifs de production de connaissances, d'échange de savoir, de savoir-être dans la connaissance qui sont complètement altérés. C'est le milieu entier qui est déstabilisé. Et je crois que c'est peut-être un des objectifs de la précarisation, de manière à pouvoir ensuite avoir, de la part des dirigeants, une mainmise beaucoup plus aisée sur un corps qui aura été fragilisé, pas simplement par le fait d'une hétérogénéité des emplois qui oppose des précaires à des personnes stables, mais par une dépossession globale de la capacité de travailler, de progresser dans des conditions sereines pour produire des connaissances. Comment voulez-vous que les collectifs puissent fonctionner convenablement quand certains sont invisibles, n'ont pas leur nom sur leur porte, n'ont pas le droit de signer? On imagine les conditions de production de la recherche que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'on retrouve dans d'autres situations de travail, à savoir dans le secteur privé, une mise en concurrence créé et qui est extrêmement dommageable pour la qualité du travail. Alors là, cette mise en concurrence, elle est exacerbée puisque on est au niveau d'une compétition par la notoriété dont on sait qu'elle est extrêmement symbolique et que ça la façon dont elle se décline est effectivement gravissime. Et si ce sont les chercheurs précaires qui sont immédiatement pénalisés, je pense qu'il y a une sorte de diabolisation qui se jette sur les travailleurs stables, une sorte d'incapacité à gérer des situations aussi difficiles. Donc moi, c'est surtout sur cet aspect-là que j'aurais, en tant que sociologue du travail, j'aurais souhaité attirer l'attention, c'est que la montée en puissance de la précarité que l'on voit bien dans tous les secteurs, qu'ils soient publics et privés, s'accompagne d'une véritable précarisation du travail et de la qualité du travail et crée les conditions d'une mise sous tension et d'une mise il y a quelqu'un qui veut parler ?
Ah, mais c'est tout à fait hors de question.
D'accord, c'est hors de question. Une mise en danger, en quelque sorte, de la qualité collective de la production des connaissances. Moi, c'est cet aspect-là sur lequel je voulais... Je crois que c'est une déstabilisation globale. C'est une déstabilisation globale. Nous sommes attaqués dans la qualité de ce que nous produisons, tu l'as dit. Le fait d'avoir à chercher des contrats, à trouver du travail, et à aider les précaires à trouver du travail, le fait de faire prendre en charge des responsabilités scientifiques, d'encadrement même, de recherche, d'enseignement, par des personnes qui sont dans des situations extrêmement fragilisées, a pour conséquence ce que l'on nous décrit tous les jours, à savoir une moindre qualité de l'enseignement et à terme de la recherche en France, mais on a le sentiment que c'est quelque chose qui est conçu comme ça, avec cette idée managériale qu'on retrouve bien dans le privé, mais qui est à l'œuvre dans le public, que plus on déstabilise, que plus on insécurise les individus, plus ils seront performants au travail. Et toutes les analyses sociologiques montrent que c'est l'inverse, et qu'on obtient des conditions où les gens vivent dans la culpabilité, vivent dans l'inquiétude, vivent dans l'angoisse. Alors, la culpabilité pour les stables, mais l'angoisse, le sentiment de peur, de dépendance, de fragilité pour les précaires. Et on voit bien qu'on est loin des conditions de production et des pôles d'excellence dont on n'arrête pas d'entendre parler. Ouais,
c'est ça. Merci Daniel. Ce qui est très frappant dans l'enquête, à un moment donné, c'est cette espèce de soupir affligé à la fin qui dit il faudrait quand même qu'on puisse arriver à avoir une situation de protection juridique qui soit au moins aussi bonne que celle qu'on a dans le privé. Ce qui est assez paradoxal. Le second paradoxe étant que, après la, entre guillemets, mode de suicide qui a défrayé la chronique, on a maintenant dans les services RH tout un discours qui consiste à dire il faut recréer de la sécurité. Alors c'est très très souvent de la sécurité psychologique, hein, c'est-à-dire de la sécurité individuelle. Ça passe par des salles de détente, des massages, des choses tout à fait fondamentales. Bernard Friot, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir ? Est-ce que cette enquête ne nous parle pas finalement de la nécessité de sortir du déni individuel et collectif ? Des individus dans le collectif, et comment est-ce qu'on pourrait essayer d'envisager de reconstruire des affirmations individuelles, des affirmations collectives qui soient des affirmations solidaires ?
Affirmation collective, c'est tous fonctionnaires, hein, bien sûr. Et je me suis beaucoup réjoui que dans cette enquête, malgré le peu d'espoir d'intégrer la fonction publique, la revendication soit d'abord une revendication exprimée en termes de titularisation. Être titularisé, c'est tout à fait autre chose que d'être stabilisé dans son emploi. Être titularisé, c'est entrer dans la fonction publique. Et la fonction publique, elle n'est pas fondée sur l'emploi, elle est fondée sur la qualification. Comme le rappelait d'ailleurs le dernier témoignage, Éric Chalice, Dieu sait si beaucoup de ceux que nous appelons précaires, en faisant attention parce que ça supposerait que l'opposition soit entre stable et précaire, mais le fonctionnaire, il n'est pas d'abord stable, hein, il est d'abord reconnu pour sa qualification. beaucoup de ces précaires sont déjà passés devant des quantités d'instances d'évaluation, et la reconnaissance de leur qualification comme étant un attribut personnel est tout à fait légitime. Or, c'est ça, un fonctionnaire. C'est pas quelqu'un qui a un emploi stable. Ça, c'est le privé qui peut proposer cela. Et il faut faire très attention que un souci partagé de stabilisation des individus à l'université ou au CNRS s'exprime en termes de stabilisation dans l'emploi. Parce que ce n'est pas ça la fonction publique. Hein. La fonction publique, c'est stabilisation dans la qualification. Il ne s'agit pas d'obtenir un emploi stable. Ça, c'est la LRU qui veut faire de nous des employés de nos universités ou de nos institutions. Il s'agit d'être reconnu pour une qualification personnelle. On est maître de conf, on est à tel ou tel niveau de qualification. On n'est pas stabilisé dans un emploi. D'ailleurs, les fonctionnaires sont les plus mobiles aujourd'hui des salariés, parce que précisément, cette sécurité qu'ils ont dans la qualification, qui les suit, quel que soit leur poste, fait qu'ils sont beaucoup plus mobiles d'un poste à l'autre que dans le privé, où le fait que la sécurité soit attachée à l'emploi fait qu'aujourd'hui, on n'ose pas quitter son emploi et que paradoxalement, les mobilités volontaires soient en décroissance. Donc, je me suis beaucoup réjoui que malgré la pression qui est faite aujourd'hui, hein, puisqu'il s'agit d'en finir avec la fonction publique, malgré la pression qui est faite aujourd'hui avec la LRU ou avec la réforme du CNRS, pour que nous entrions dans une logique d'emploi avec des droits attachés au poste de travail, les précaires reste avec un horizon de titularisation, avec des droits attachés à la qualification. Ça augure bien de l'avenir, à condition que l'intersyndicale se batte pour tous fonctionnaires, et pas tous stables. Tous stables, ça c'est vive la LRU. Tous fonctionnaires, ça c'est anti-LRU. C'est-à-dire, dès l'audition devant réussi devant l'école doctorale pour obtenir une allocation, enfin un contrat, ce qui ne devrait plus être un contrat doctoral précisément, le doctorant est fonctionnaire. C'est la seule réponse à la hauteur de notre reconnaissance comme qualifié et non pas comme titulaire d'emploi. C'est la seule réponse à la hauteur du défi de la précarité.
Merci. Alors, c'est peut-être la seule réponse en termes d'horizon, mais j'ai cru entendre au moins de la présentation que les précaires eux-mêmes articulent cet horizon. Enfin, comme on dit quand on fait de la poésie, ils attachent leur charrue à une étoile. Hein. Il y a l'horizon de la fonction publique, et puis il y a une demande à court terme, immédiate, pragmatique, très concrète, d'un cadre juridique plus protecteur, plus solidaire, plus déprécarisant. Et d'ailleurs, je trouve que c'est extrêmement intéressant que l'articulation se fasse entre les deux dimensions, y compris, si j'ai bien compris, de manière très intime dans les réponses qualitatives qui étaient apportées à l'enquête. Je ne sais pas comment on s'organise. Vous voulez réagir à la tribune ? Il y a des questions dans la salle. On